Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, les pédalos, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le pédalo sur les ondes de Radio Campus Angers. Hier se tenaient de nombreuses manifestations en soutien de l'hôpital public et ce à travers toute la France. En effet, après avoir été salué et applaudi par une majorité de personnes pendant le confinement, les soignants ne sont pas satisfaits des mesures annoncées pour le gouvernement qui leur semblent insuffisantes. De nombreux syndicats ont appelé à la mobilisation. Ils y ont répondu en masse. Je vous propose donc d'aller faire un tour du côté de Rennes où nos camarades de Radio Syllab étaient présents dans le cortège, l'occasion de demander aux manifestantes et aux manifestants pourquoi ils étaient présents. Enfin, pour finir cette émission, on retrouvera la chronique d'Alexis qui continue à explorer certains aspects des cultures underground. Et ce soir, il nous parlera du graphe. Voilà pour le sommaire de cette émission, je vous propose donc d'écouter ce reportage.
Je suis solidaire avec tous les personnels hospitaliers, sachant que moi je travaille dans le social, donc on a à peu près des choses assez équivalentes en termes de postes, en termes de moyens. Et je trouve ça tout à fait légitime. Moi j'ai pas, pendant le confinement, j'ai pas applaudi, ça me dérangeait. Je préfère être là aujourd'hui. Je trouve que c'est plus important et j'espère qu'il y aura plus d'impact parce qu'en fait rien n'a changé quoi. Donc j'espère qu'au moins les choses elles vont bouger et ils méritent en fait. Tous les personnels soignants, ils méritent d'être reconnus davantage. Et c'est pas une médaille en chocolat ou une prime, c'est une augmentation de salaire en fait. Ça me semble légitime. Ils ont oublié en fait, je pense que même les gens ont oublié. Je pense qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir, comme il s'est passé avant le confinement, une répression, y compris au niveau des manifestations, au niveau des personnels soignants. Les gens, ils avaient oublié ça pendant le confinement, qu'il y avait déjà des revendications depuis longtemps. Et aujourd'hui, moi, je vois pas de signe. Alors, ils sont à nouveau partis sur, j'ai oublié le terme là, mais les rencontres sans arrêt, voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai pas eu connaissance de choses concrètes à annoncer. Et je comprends que la colère, elle soit là. C'est une réelle augmentation de salaire. On voit bien par rapport aux autres pays européens, notamment l'Espagne et l'Allemagne. Je crois que c'était annoncé les 300 euros. C'est un minimum au regard aussi du métier, la pénibilité. Et puis aussi plus de moyens. Enfin, les lits, l'augmentation des lits. Là, ce que je trouve que ce qui a mis en avant l'épidémie, c'est qu'on est peut-être la 5e ou 6e puissance mondiale, mais au final, on a un système hospitalier. On s'est un peu foutu de la gueule des Italiens, mais on n'avait pas non plus à fanfaronner, quoi. Et demain, si ça revenait, une deuxième vague, etc., il y a eu des choix bizarres. Là, on ne parle pas des EHPAD, on ne parle pas aussi de la comptabilité, là, des morts, etc. Moi, je pense qu'il faut, qu'il y ait plus d'argent. Et le service public, il a été détricoté. Et le service public, c'est pas là pour faire des profits, quoi. Je trouve que le message politique il est de moins en moins crédible. Et les médias, on leur part de responsabilité, clairement.
On est là pour l'hôpital public. On espère beaucoup du plan Ségur, avoir des moyens financiers, avoir des moyens humains et matériels pour que l'hôpital demain fonctionne d'une façon cohérente et un peu meilleure qu'aujourd'hui, surtout. Et puis un titre un peu plus individuel de par notre profession. Nous, on est des ambulanciers SMUR, donc au SAMU 35 de Rennes. Et donc aujourd'hui, on est là aussi pour espérer que le plan Ségur améliore notre condition de travail en simplement en changeant de grille indiciaire et notamment de catégorie, puisque nous, aujourd'hui, les ambulanciers de l'hôpital et les ambulanciers du SAMU, on est dans la classe des sédentaires, donc on est dans la classe des ouvriers et on n'est pas dans la classe des soignants. Et par rapport au plan Ségur, on espère que notre statut va changer, qu'on va devenir véritablement des soignants parce que c'est notre vrai métier. Au quotidien, on est là vraiment pour aider les gens, soigner les gens. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on passerait d'une classification de catégorie sédentaire à une catégorie active qui nous permettrait d'accéder à cette catégorie de soignants. À Rennes, on parlait un peu de manque de moyens à un moment donné pour se protéger par rapport au Covid-19. Il faut quand même le dire, globalement, les moyens ont été mis à disposition des unités qui avaient vraiment besoin de se protéger. même si certains week-ends on était vraiment en tension, en limite de matériel, mais l'hôpital a su rebondir et quand même nous protéger. Maintenant, la tension, elle était quand même bien présente au sein des équipes puisque c'était un nouveau virus que personne ne maîtrisait. Il fallait vraiment faire attention. Chaque jour, les méthodes d'habillage, de déshabillage changeaient. Les moyens qu'on nous mettait à notre disposition changeaient. Donc il fallait vraiment s'adapter au quotidien pour se protéger et surtout pour bien prendre en charge la population puisque ce virus était vraiment, à un moment donné, en train de progresser dans le département. Et je pense qu'on a répondu présent avec notre force, nos moyens qui étaient présents. Bien évidemment, les moyens sont plus franchement en adéquation avec les besoins qu'on a sur le terrain. Pour information, nous au SAMU 35, on a des véhicules qui ont plus de 200, 300 000 km. C'est des véhicules d'urgence, on fait des transferts lointains sur Paris, sur Brest, et parfois, malheureusement, on a des pannes. Il y a des restrictions budgétaires. En personnel, c'est pareil, pour se faire remplacer, pour avoir nos congés d'été, il faut toujours se battre, il faut toujours faire des gardes supplémentaires, donc ça vient vraiment usant, ça vient fatigant, donc on espère beaucoup de ce plan de Ségur, avoir des moyens personnels, des moyens matériels pour pouvoir améliorer nos conditions de travail. On veut tout simplement faire notre métier du mieux possible pour que la population soit le mieux soignée possible, tout simplement. Les attentes, elles sont énormes. Pour le moment, on n'a aucune réponse. On ne sait pas ce que va ressortir de ce plan Ségur. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour mettre la pression sur le gouvernement, sur les gens qui sont en train de réfléchir par rapport à ce plan Ségur, parce qu'il faut que l'hôpital vraiment obtienne des moyens financiers pour pouvoir recruter du personnel, pour pouvoir acheter du matériel et pour pouvoir pérenniser tout simplement l'hôpital public qui a vraiment besoin. Ça fait quand même plusieurs années qu'on est en grève, que les urgences sont en grève depuis plus d'un an. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Malheureusement, le Covid est arrivé. Et aujourd'hui, on est là. On attend beaucoup. Et on va rester attentif, même si on doit rester encore présent tout le mois de juillet, tout le mois d'août, pourquoi pas au mois de septembre, s'il faut encore améliorer les choses. On est vraiment attentif et on est là pour mettre la pression au gouvernement pour obtenir des moyens.
Alors, je travaille à l'hôpital de Rennes, je suis au service de médecine légale et je suis psychologue. Et du coup, je suis là pour que voilà, nos salaires soient revalorisés et qu'on soit aussi plus reconnus dans ce qu'on fait, quoi. Ce qui m'a le plus révolté, en fait, c'est la réponse politique face à la crise sanitaire. On nous a dit qu'on était des héros, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on nous propose des médailles. En fait, ce n'est pas des médailles qu'on veut. C'est une revalorisation de nos salaires et aussi une reconnaissance de ce qu'on fait. Et on est attaché en fait aux valeurs de l'hôpital public quand même. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est vrai qu'on se sent plus soutenu par l'ensemble de la population. On espère que du coup ça aura un poids plus important parce que c'est vrai que l'hôpital public est en grève depuis plus d'un an là maintenant. Et on n'était pas trop entendu. On nous a dit qu'il n'y avait pas de l'argent partout en fait. On se rend compte qu'il y a de l'argent un peu partout mais pas pour les soignants. Donc c'est vrai qu'on espère que le soutien de la population pendant la crise sera maintenu et que ça fera bouger un peu les politiques actuelles, quoi. Voilà. Et peut-être je peux parler aussi de la précarité des contractuels parce que moi je suis contractuel et de la précarité des contractuels, on n'est pas fonctionnaire, tout le monde n'est pas fonctionnaire quand il travaille à l'hôpital et en fait on est vraiment mal payé, donc après 5 ans d'études, moi je suis payé 1 500 € et c'est tout ce que j'ai, quoi. Donc, voilà. Et on est plusieurs dans ce cas-là, dans mon service par exemple, on est 7 psychologues et on est 6 contractuels, donc voilà. Ça donne une petite image quand même de ce qui se passe à l'hôpital public aujourd'hui. Donc on est là surtout pour des valeurs, mais on a besoin aussi de reconnaissance dans ce qu'on fait, et voilà.
On en a parlé pendant le confinement, c'est vrai, même entre nous. On applaudissait à 20h, c'était important pour nous de montrer notre soutien. Je pense qu'on a assez applaudi chacun chez soi pour montrer qu'on était là aussi, quoi. Voilà.
Donc un soutien pour le personnel soignant et pour les soignantes.
Ouais, pour le personnel soignant, pour les soignants, pour montrer le désaccord. Et puis on a suivi ça chacun de notre côté. Et c'est vrai que pouvoir échanger avec les gens et montrer que... qu'on soutient, quoi, en tant que patient, futur patient, c'est important, je pense, pour moi.
Qu'est-ce qui vous a le plus révolté dans la gestion, en fait, de cette crise sanitaire, là, pendant la pandémie de Covid-19?
Alors, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que quand on regardait les médias, ce qui revenait le plus, c'était la gestion des masques. Après, moi, c'est vrai que j'étais plus révoltée par rapport aux conditions du personnel soignant, ce qui se passait. Je trouvais que c'était vraiment révoltant, puisqu'on avait très, très peu leur son de cloche, quoi. Donc, c'était vraiment parler pour eux, parler... Il y avait beaucoup de rumeurs. Et il y en avait très, très peu, en fait, de gens qui racontaient leurs histoires, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et c'est plus, moi, ça qui m'a choquée. Et voilà, pour ça qu'on applaudissait à 20h aussi. Mais je pense que ça suffit pas du tout, quoi. Maintenant, faut sortir, quoi.
En fait, vous, ce qui vous a donné de l'info vraiment sur ce qui se passait, c'est plus au niveau des réseaux sociaux, vous dites, plutôt que les médias traditionnels, quoi.
Totalement, totalement. C'est pas du tout les médias traditionnels. Très, très vite, je m'en suis détachée, d'ailleurs, puisque je trouvais que c'était un peu toujours la même chose. Donc, c'était pour moi un peu de la répétition pour endormir aussi. J'avais une impression que les masques étaient tout de suite une priorité. De l'autre côté, sur les réseaux sociaux, on avait des témoignages. Un soignant tout seul avec son téléphone qui nous raconte qu'est-ce qui se passe après sa journée de boulot. Voilà, il n'y a pas de deuxième lecture, il n'y a rien. Et c'est, pour moi, c'était vraiment ce qui, moi, m'a intéressé le plus, en tout cas. Ouais.
Est-ce que c'était quelque chose dont vous aviez conscience avant, en fait, des conditions de travail à l'hôpital, ou est-ce que finalement, cette pandémie-là, ça a ouvert un peu comme les yeux sur une problématique qui, pour le coup, existe voilà, depuis avant et,
Oh oui, moi toujours quand même, puisque je connais des gens qui sont quand même dans le système hospitalier, donc déjà j'avais aussi leur son de cloche. Après, c'est vrai qu'il y a quand même ce syndrome des héros, quoi. Ils sont pas habitués à ce qu'on les écoute, ils sont pas habitués à être présentés, ils sont pas habitués à être dans de l'indignation, en fait, au niveau de leurs conditions de travail. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que cette pandémie-là, cette crise-là, ça leur a permis aussi de gueuler, quoi. De gueuler comme nous, on a pu gueuler en tant qu'étudiants, en tant que salariés, en tant que tout ce qui s'est passé dans cette année 2020. Enfin, on leur donnait la parole et il n'y avait plus de syndrome du héros. Ils n'étaient plus considérés comme des héros par vocation. Et ça fait du bien, quoi, de se remettre dans une idée où c'est un travail, ça doit rester un travail, ça doit être humain et voilà, quoi. Et représenté normalement, quoi.
Et dernière petite question, est-ce que vous auriez des solutions ou des pistes de solutions qu'est-ce qui est le plus important pour vous d'après même les personnes que vous connaissez qui travaillent dans le système hospitalier et médical, qu'est-ce qui serait de toute urgence en fait à mettre en place
Ah, moi j'en sais strictement rien, justement je pense qu'il faut peut-être arrêter de parler à leur place au contraire et on va les écouter, on va bien essayer de savoir ce que nous, à notre échelle, on peut faire et au niveau du gouvernement, ce qu'eux vont pouvoir faire, quoi. Parce que c'est vrai que voilà, quand on ne sait pas, vaut mieux, je pense, les écouter et enfin peut-être les écouter à leur juste valeur, quoi.
On est des travailleurs sociaux, du coup on a des choses à revendiquer aussi. Meilleures conditions de travail, ouais, plus de moyens aussi, ouais. Moins de business. J'ai l'impression que les personnes en situation de handicap, moi c'est là avec eux que je bosse, on les a complètement pas vus, on n'en a pas entendu parler. Bon, c'est comme d'habitude en fait, hein. Un peu comme les personnes âgées, on s'en préoccupe pas beaucoup. Hein. Donc c'était déjà la merde avant le confinement, là c'est pire. Et oh.
Moi, je suis aide-soignante en institution, donc concernée par la façon dont les soignants sont traités globalement, les salaires, voilà. Le manque de personnel à l'hôpital public, comment l'hôpital public a été laissé à l'abandon. La crise, visiblement... a changé les choses dans le discours au pic de l'épidémie et puis c'est retombé un peu comme un soufflet. La preuve, les barrages nous empêchent de circuler comme tout manifestant ayant droit, alors qu'il semblerait que les manifestations soient autorisées. Donc voilà, il y a toutes ces raisons-là, plus une grosse solidarité avec les collègues hospitaliers, quoi. Il y a eu beaucoup de symbolique dans les applaudissements aux fenêtres, etc.
Qui
était sincère, certainement. Mais je trouve qu'il aurait fallu beaucoup plus de monde aujourd'hui, quoi, pour montrer que ça continue, quoi. Ça ne s'est pas arrêté avec le nombre d'hospitalisés de morts en moins, quoi. Le problème des soignants, il reste entier, le même. Une reconnaissance.
C'est le problème de toute la population, parce qu'un jour ou l'autre, on en a besoin.
Voilà, on peut aussi se retrouver comme aux États-Unis, hein, tout filer dans les mains du privé. Plus de sécurité sociale, on n'est pas à l'abri. Ne pourront se soigner que les gens qui auront les moyens. Les autres, ils végéteront. Avec leur pathologie, ou ils partiront, voilà. Il y a un peu une image où on a mis en avant les derniers de cordée, les derniers de corvée en gros. Juste le temps où ils étaient strictement nécessaires, quoi. Là, moi j'ai écouté le discours de Macron dimanche soir. Je suis désolée, j'avais l'impression qu'il démarrait sa campagne électorale pour 2022 et puis voilà.
L'autosatisfaction de lui-même, quoi. Enfin, nous n'avons pas à rougir. Alors que dans les EHPAD, c'était une catastrophe, dans les établissements, dans les hôpitaux. Enfin,
oui, au niveau matériel, ils ont laissé les gens démunis
face aux médicaments,
face à des situations qui étaient prévisibles. Hein,
jamais voilà. Dû arriver dans un système comme le nôtre. Ouais. Jamais ça n'aurait dû arriver, ça. Voir combien de 1000 personnes, 10 000 personnes en EHPAD qui sont mortes abandonnées. Ça n'aurait jamais dû arriver. Discuter avec des gens qui sont par exemple dans les hôpitaux et dans les salles d'opération et tout ça, il va y avoir un manque de médicaments dans les quelques semaines, quelques mois. Il faut absolument que l'État redevienne à la tutelle des médicaments. Quoi. Il faut arrêter de confier ça au privé. Soigner les gens, ça doit être un organisme d'État.
On fait ce métier-là par générosité de l'âme. On fait ça gratuitement, voyons. Enfin, Puis en plus, les paramédicaux, ils font même pas grève, en fait. Ils peuvent pas, en fait. Ils ont les boules pour leur équipe, pour les gens qui sont soignés. Donc, de là, on a beau leur dire merci. En fait, c'est du...
Les applaudissements à la fête, moi, je trouvais que c'était presque une insulte. Ça, c'était une blague. Ça, je dirais que c'est médiatique. Ça, c'était un souci du média. On a le souci du politique, on a le souci du média. Ça ne concerne pas tout ça. C'est de la connerie. Enfin. D'aller applaudir à la fenêtre, ça fait plaisir. Ouais. On se fait du bien. Venir faire une manif, ça engage. On est obligé de... On fait un sacrifice, quoi. Voilà, financier, de temps, de conviction, tout ça. Applaudir à une fenêtre, ça fait du bien. C'est lien social. Ça, c'est bien pour ça. Mais c'est pas politique, tout ça. Voilà. Ça fait plaisir aux médias. C'était sympa sur France Inter, les applaudissements à 20h. C'était sympa.
Délégué du personnel de l'hôpital de Saint-Malo-Grand, qui est en GHT avec Conchaillou et Montfort sur Meux. Et puis on est là, on revendique tout ce que revendique aujourd'hui le monde public hospitalier. L'augmentation des salaires qui est gelée depuis X années, des meilleures conditions de travail. Et puis voilà, enfin, en fait c'est une grosse crise et il a fallu qu'il y ait le Covid pour que les gens commencent à prendre conscience en fait de l'état actuel du secteur public hospitalier, quoi, tout simplement. En fait la crise sanitaire est venue vraiment révéler la problématique du milieu hospitalier public, privé aussi, hein, tout le monde est dans la même barque. Il a fallu le Covid malheureusement et encore là on aurait espéré plus de monde. Il est juste dommage de ne pas pouvoir défiler, voilà. On se demande des fois si tout n'est pas fait pour éviter qu'on parle de trop, en fait, voilà. Bon, là, aujourd'hui, c'est l'occasion, on est là, on est content d'être là. Maintenant, il faut voir ce que le gouvernement va faire. Franchement, on pense que c'est vraiment de l'utopie de penser qu'il va y avoir des améliorations, en fait. Le Covid leur a juste permis à eux de faire penser qu'ils allaient s'occuper de nous, mais... Ouais, on pense qu'on est dans un monde utopique malheureusement. Ouais. Alors plutôt que de proposer des médailles par exemple, ou même une prime, la prime, alors forcément on va pas cracher dessus si on nous la donne, c'est plutôt des augmentations de salaire, des vraies augmentations de salaire qu'on revendique depuis X années. Y a rien, on ne voit rien quoi. Donc le geste de l'État, là il y a le fameux Ségur qui est géré par Nicole Nota, ancienne syndicaliste CFDT qui franchement a bafoué le syndicalisme. Puisqu'elle était pro-État, aujourd'hui c'est elle qui s'occupe de ça, sincèrement on va rien avoir, faut pas rêver. Et si par hasard on a, je me réconcilierai avec elle. Meilleure prise en charge des patients, ne pas avoir d'attente comme on peut les avoir aux urgences, donner le temps au personnel des centres de gériatrie comme Saint-Malo-Grand par exemple de s'occuper des patients, des résidents, et arrêter de faire juste un bel hôpital sur une plaquette pour donner envie aux gens d'y venir ou de passer la fin de leur vie. Non, c'est vraiment des actes dont on a besoin. C'est pas juste en fait des promesses, des images, et faire penser que la France est un pays souverain, on va dire, en matière de prise en charge de soins. Non, franchement, on est complètement à l'ouest. Et il est temps de réagir, quoi. Voilà. La détresse très grande, c'est qu'aujourd'hui, les écoles d'aides-soignants, les écoles d'infirmiers, elles sont vides parce que plus personne ne veut faire ce métier-là. C'est qu'avant, si on retourne 10 ans, 15 ans en arrière, même 20 ans, il y avait des poules de remplacement parce que les jeunes se battaient presque pour avoir les places pour pouvoir venir prendre soin des gens. Aujourd'hui, en fait, on n'a plus de poules de remplacement, ce qui fait qu'on se retrouve en auto-remplacement. Donc le personnel est rappelé à domicile, ce qui est complètement interdit. Donc voilà, les règles sont complètement bafouées en fait par l'État, parce qu'en fait on est géré par l'État. Et nos directions, qui sont bien formatées en fait, bafouent complètement les règles. C'est-à-dire qu'en fait on demande au personnel même vulnérable de revenir travailler. On se fiche complètement de savoir s'ils vont être en bonne santé derrière ou pas. Et puis on espère vraiment que le mouvement, aussi petit soit-il, parce que c'est pas très conséquent, je trouve, on aurait pu faire mieux. Mais on espère que ça aura un impact. Toutes les villes de France, logiquement, manifestent, en espérant que ça ait l'impact suffisant. Ouais, très sincèrement, je pense que le balcon, alors, certainement, il y avait des personnes qui étaient sincères. Après, voilà, c'est pas au balcon qu'il faut nous soutenir, c'est dans la rue, c'est aujourd'hui, quoi. Le balcon, j'ai peur que ce soit vite oublié. Je vais faire un parallèle avec les policiers, c'est pareil. Les policiers, en 2015, on les a applaudis. Nous, on nous applaudit aujourd'hui. J'ai peur que d'ici un an ou deux ans, si malheureusement il n'y a pas d'autres Covid, on sera vite oublié, comme d'hab, quoi. Non, je pense qu'il y a vraiment une crise et on ne sait plus quoi faire, en fait. Voilà, on ne sait plus quoi faire. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a de moins en moins de monde à vouloir bosser dans le milieu hospitalier. Et aujourd'hui, même moi, mes enfants, je leur défends de venir bosser dans le milieu, quoi.
L'humain, il a plus sa place en fait, parce qu'il faut faire du chiffre. Et c'est pareil dans le paramédical, mais c'est pareil dans le social aussi, ce qui paraît quand même aberrant. On n'est pas là pour... ça marche pas comme ça, c'est pas des actes qu'on fait, c'est du soin, c'est de l'accompagnement. Et ça, c'est pas un shot, un acte, je sais pas, c'est pas de la productivité, quoi.
Ça n'a pas changé, c'est une suite. C'est des politiques qui continuent, qui se mettent en place, qui ne bougent pas. Puis là, c'est des appels de la politique, mais qui ne changera rien. Et nous, ce qui nous inquiète en tant que travailleurs sociaux, c'est qu'on voit bien que le sanitaire, ça se dégrade à fond, parce qu'il y a une politique de tarification qui est complètement uniformisée et qui tue le sanitaire. Et que nous, dans le médico-social, on veut nous imposer exactement la même chose et qu'on ne pourra plus faire notre travail correctement parce que, avant tout, leur seul prisme, c'est le budget, c'est l'argent. Et nous, on travaille avec des êtres humains. Voilà.
Voilà, merci à nos camarades de Radio Syllab pour ce reportage long format. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la chronique d'Alexis. Ça sera juste après Friolento de Caribombo en featuring avec Shaq Shakambo.
nayo eloko mosusu te. Kofinga na ngai te, kodongola ngai te. Olingo na kosenga yo eloko mosusu te.
Retour dans le pédalo sur les ondes de Radio Campus Angers. On approche doucement de la fin de cette émission. Juste le temps d'écouter la chronique d'Alexis. I never get sick off the smell of paint liquid. Graffiti's been around since the days of hieroglyphics. Forget about one time, cover land like sunshine. Tag every bus, every street, every sign. Tag every bus, every street, every sign. Vous l'aurez peut-être compris, je parlerai ce soir de la pratique du tag. Voyous, délinquants, rebelles, la liste des mots stigmatisant le tagueur est longue. Ennemi des citadins et de la SNCF, le tagueur est un homme de l'ombre qui fait de la ville son terrain de jeu. Mais qu'est-ce qu'on appelle au juste un tag ? Un tag désigne une signature personnelle ou une écriture non officielle réalisée à main levée sur une surface, que ce soit un mur, une colonne, une porte, etc. Il vient de l'anglais tag, signifiant étiquette. Les puristes le différencient du graffiti, qui s'apparente plus à une œuvre d'art urbaine plus ou moins élaborée. Jean Baudrillard, célèbre sociologue et philosophe français dans son livre « Cool Killer ou l'insurrection par les signes », définissait le tag comme une perturbation du système de signes et de communication écrite dans la ville, notamment à cause de l'absence de signification du contexte. Il provoquerait des questions concernant tant la propriété que le fait de savoir qui a le droit de communiquer quelque chose. Françoise Robert l'Argentin, dans son livre « Communication et langage », définit quant à elle le tag comme une manière de se faire connaître, de se libérer des contraintes ou des problèmes de la vie. Un des taggeurs qu'elle rencontra lui expliquera que le tag signifiait à ses yeux « Moi j'existe ». En somme, une manière de s'affirmer et de sortir de la masse des gens. Mais d'où tire-t-il ses origines ? Son histoire la plus lointaine peut se retrouver dans les hiéroglyphes des pharaons, voire carrément dans l'art rupestre de la préhistoire. Mais les premiers vrais tags ou graffitis nous viennent officiellement des Romains. Et oui, vous avez bien entendu, des Romains.
Le terme graffiti provient d'ailleurs du mot italien sgraffite, qui vient lui-même du mot graffiare, signifiant griffé. Le sgraffiti ou sgraffito est un art visuel destiné à la décoration architecturale. On a notamment retrouvé de nombreux graffitis dans la ville romaine de Pompéi, qui avaient alors diverses significations. Publicité, attaque personnelle ou encore texte à connotation sexuelle plutôt explicite. La pratique moderne du tag se développe quant à elle à la fin des années 60 dans des pays au contexte politique plutôt difficile. En Allemagne par exemple sur le mur de Berlin. On situe généralement New York comme capitale du graffiti moderne dans les années 70 avec notamment le célèbre Afrika Bambaataa qui l'aurait ensuite importé en France. Pour la petite histoire, Afrika Bambaataa était membre d'un gang nommé les Black Spades dans le Bronx et qui s'adonnait notamment au braquage et au trafic de drogue. Afrika Bambaataa, après la mort de son meilleur ami, décida de reconvertir son gang en quelque chose de positif. Ainsi, ses membres devinrent graffeurs, danseurs ou encore rappeurs. La pratique du tag se répandit dans le métro, mais aussi sur les biens et endroits publics. En France, on le retrouve notamment sur les trains de la SNCF ou ceux de la RATP. Avec le temps, des styles différents de tags sont apparus, des règles plus ou moins implicites se développèrent, bref, la pratique évolua. Ainsi, peut-être changerez-vous de regard suite à cette chronique quand vous verrez fleurir durant la nuit un gribouillage sur la poubelle de vos voisins. Bien entendu, je n'incite personne à la dégradation des biens privés et publics.
Merci beaucoup Alexis pour cette chronique, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau pédalo. Ce soir, retrouvez également la dernière de la saison pour La Mine, l'émission hip-hop, aussi bien français que US. Voilà, on les remercie encore pour cette saison supplémentaire passée à nos côtés, c'est toujours un plaisir. Et très bonne soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus Angers.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.